Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils en avaient rêvé et c'est désormais chose faite. Tous les regards sont tournés vers les hôpitaux de France. Un triomphe douloureux pour tous les soignants qui, depuis des années, tentent d'attirer l'attention de l'opinion publique sur l'état de santé préoccupant du système hospitalier. Des hôpitaux en première ligne, au front, diraient même certains. Il n'y a qu'à lire les titres de la presse pour s'en persuader. Tension, indignation, colère, contamination galopante, décès. L'ambiance n'est pas des plus gaies. Et bien ce matin, je vous propose de prendre un peu le contre-pied et de tirer un coup de chapeau cette fois aux bonnes fées de l'hôpital. Oui, oui, vous avez bien entendu, aux bonnes fées de l'hôpital, car il y en a, et même beaucoup. Les bonnes fées de l'hôpital, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, il y a des fées, et des fées des deux sexes. On n'arrête pas le progrès. Michèle Aimeran, vous êtes présidente des Blues Roses de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Padier, vous êtes coach, clown et directeur artistique de la compagnie du Bout du Nez. Bonjour.
Bonjour.
Hélène Gazot, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Rêve Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et Valérie Revol, vous êtes présidente de l'ASP Toulouse, l'ASP pour accompagnement en soins palliatifs. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va parler de l'hôpital et puis du coup on va avoir un autre regard et on va essayer de se faire du bien et de faire du bien aux auditeurs. On va présenter vos différentes associations, parfois au nom énigmatique, même s'ils peuvent se deviner, Rêve, Blues Rose, Bout du Nez, quand même, il n'y a pas besoin d'avoir l'image pour deviner tout ça. C'est vrai que je parcourais la presse juste avant l'émission, et quand on tape hôpital dans un moteur de recherche fort connu, on trouve rapidement ces qualificatifs, tension, indignation, colère, contamination, galopante, ça ne parle pas beaucoup de bonnes fées, loin s'en faut. Alors, que se passe-t-il du côté de vos associations? On va commencer avec vous, Michèle Aimeran. L'hôpital, est-ce que vous avez le droit d'y mettre les pieds? Est-ce que vous êtes tenu à l'écart de l'hôpital depuis maintenant des mois?
Et depuis le mois de mars, on n'intervient pas à l'hôpital. On reste en lien quand même avec l'hôpital au niveau des cadres, des responsables, du service administratif, mais nous n'avons pas l'autorisation d'aller dans les chambres et de rencontrer les enfants.
Alors, est-ce que c'est pas un crève-cœur quand on est une bonne fée de l'hôpital, comme ça, d'être tenue à distance et de pas se sentir peut-être un peu inutile?
Mais c'est un peu frustrant parce que c'est pas notre rôle. Hein. Notre rôle, c'est animer auprès des enfants qui sont souffrants. Donc, c'est sûr que c'est un peu un crève-cœur. Mais on essaie d'intervenir autrement. On essaie d'intervenir eh bien, en leur faisant des cadeaux, en leur distribuant des chocolats à Pâques, en leur envoyant des cartes à Noël. Et là, on est en train de mettre en place des visioconférences avec les enfants où on leur propose un petit groupe de Blues Roses qui leur propose via Internet des jeux, des chansons.
Alors on y reviendra pour essayer de voir un peu toutes les astuces que vous trouvez. On va quand même faire un tour de table, visite ou pas visite. Gilles Padier, vous, visite ou pas visite?
Les deux. Donc nous, notre association, elle est sur la région Méditerranée. On intervient sur plusieurs établissements, sur 4 départements de Méditerranée. Sur le CHU de Toulouse, donc, nous intervenons depuis une dizaine d'années au Gérontopole, depuis le mois de mars. C'est la même chose, c'est-à-dire que le CHU, les portes nous sont fermées, donc on ne peut pas intervenir. Par contre, on intervient dans une dizaine d'établissements qui sont des EHPAD, principalement, puisque ce sont les lieux d'intervention des clowns hospitaliers. Et là, les situations sont diverses selon les moments et les lieux sur lesquels nous intervenons. Donc à l'heure actuelle, par exemple, sur 10 établissements, on intervient à l'heure actuelle sur 4, dont 2 en présentiel et 2 en visioconférence.
Alors on continue le tour de table. Valérie Revol pour l'association pour l'accompagnement en soins palliatifs. Là, on espère que votre réponse est oui.
Oui, effectivement, nous accompagnons pas partout, pas dans tous les établissements, puisque nous intervenons dans une douzaine d'institutions à Toulouse et sa région. À l'hôpital, oui, après une période d'arrêt, évidemment, au mois de mars, où tout était tellement compliqué qu'il fallait s'arrêter pour tout le monde, les associations.
Donc pendant le premier confinement, vous n'êtes pas intervenu dans les hôpitaux?
Mais nous avons gardé le lien là aussi avec les cadres, avec les soignants. Et puis nous avons pu reprendre entre les deux confinements, pas partout, mais la demande des soignants a été forte aussi, comme celle des bénévoles d'ailleurs, pour continuer à garder ce lien avec les personnes malades et que la maladie isole encore plus dans ces conditions.
On finit le tour de table et après je vous poserai mon autre question. Pour rêve, qu'en est-il, Hélène Gazo?
Alors pour rêve, les rêves des enfants ne se réalisent pas à l'hôpital. Donc c'est très compliqué à l'heure actuelle de leur permettre de réaliser des rêves. On a toujours des contacts avec les enfants, avec les familles. On peut prendre en compte les rêves qu'ils souhaitent réaliser. Mais encore une fois, la situation actuelle ne permet pas aux enfants, malheureusement, sauf si pendant le déconfinement, si c'est des rêves qui peuvent être faciles, entre guillemets, à réaliser.
Donc il n'y a eu aucun rêve réalisé depuis mars dernier.
Il y en a eu un peu cet été, si, pendant la période du déconfinement. Des rêves ont pu être réalisés. Et là, à l'heure actuelle, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, on essaye d'inventer comment on peut garder le contact avec les enfants sans... Voilà, en dehors des rêves.
Alors, je voulais vous faire réagir à des choses que, je pense, nombre d'entre nous ont lues dans la presse. Alors, on imagine que vous devez quand même essayer d'avoir peut-être un devoir de réserve pour certains. De toute façon, il ne s'agit pas de tirer sur qui que ce soit. J'ai retrouvé cette tribune, entre autres, c'était dans le journal Libération. « Interdiction des visites dans les établissements hospitaliers, un problème de santé publique », disait cette tribune, signée donc par de nombreux soignants et divers collectifs. Nous, psychologues hospitaliers, l'affirmons, dit entre autres la tribune, la gestion collective de la santé psychique des patients et de leurs proches devra être différente, en particulier sur l'interdiction des visites pour les patients hospitalisés, Covid ou non. Ça datait donc du 4 novembre dernier, c'était donc, sauf erreur de ma part, juste avant le prochain confinement. Alors il parlait de vraies situations traumatiques pour les malades. Qu'est-ce que vous diriez, Gilles Padier? Est-ce que quand vous lisiez ces tribunes dans la presse, vous vous disiez quoi? C'est de fait faire subir aux malades et aux patients quelque chose de, comment dire, de presque inhumain ou en tout cas d'excessif?
Je pense qu'en tout cas le contexte met en évidence effectivement des gestions de cette crise au regard peut-être de vision d'un projet de société qui peut être différent selon effectivement qui le regarde et comment on le regarde. La preuve en est, c'est que des directeurs d'établissement nous ouvrent parfois les portes, malgré effectivement les revendications qui sont les mêmes partout, où tous les intervenants extérieurs non nécessaires aux soins ne sont pas admis. Donc la question effectivement du soin, de la prise en soin, est-ce que la santé psychique fait partie effectivement des valeurs importantes à défendre? Je pense que la situation actuelle aujourd'hui met en évidence en tout cas la complexité de cette gestion et que nous en tant qu'acteurs œuvrant justement sur une dimension, que ce soit par le rêve ou par les différentes associations qui sont aujourd'hui réunies, on essaie d'apporter un complément effectivement à la prise en soin et en tout cas, de mon point de vue, c'est ce qu'on essaie d'animer dans les relations qu'on a avec les équipes, avec les directions et avec les partenaires qui nous accompagnent. Mmh. C'est de questionner effectivement, de voir comment on peut interroger ces choses-là pour pouvoir penser un avenir autour du prendre soin.
Est-ce à dire que vous avez vu une grande différence entre le premier et le deuxième confinement, par exemple ?
Oui, le premier confinement, je pense que comme tout le monde, on a été d'abord face à une réalité, c'est-à-dire que empêché de travailler, on a maintenu les liens avec les équipes, mais on était tous un peu dans la sidération. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans d'autres périodes, et en tout cas, nous sommes, nous, d'arrache-pied aujourd'hui à travailler avec nos partenaires, avec les directions, avec les équipes pour effectivement voir comment on peut penser la suite, puisque malgré les solutions qui sont pensées aujourd'hui, que ce soit sur la vaccination, que ce soit sur les protocoles sanitaires, etc., on a beaucoup travaillé autour de ça. Il y a à penser effectivement la question de la nécessité. Et en tout cas, le discours que nous, on essaie de tenir, c'est de dire que le maintien du lien social, pour reprendre un vocabulaire utilisé par notre gouvernement, c'est coûte que coûte, qu'on doit le défendre. Et que par rapport à ça, ça va nous demander effectivement de repenser la notion de la prise en soin des personnes qui sont en situation de vulnérabilité dans les hôpitaux ou les maisons de retraite.
Alors on entend, je cite juste, continue à citer cette tribune qui parle de récurrence de dimensions traumatiques parfois, et entre autres quand des personnes ont décédé, cela engendre des cascades de problèmes de santé publique. Cela résonne pour tout à chacun, grand public et personnel hospitalier, comme l'une des grandes peurs, celle de ne pouvoir être entouré par ses proches au moment de la fin. Que dit-on du côté d'ASP Toulouse ? Cette tribune finissait quand même, je cite aussi, « Les patients hospitaliers, comme tous les êtres humains, sont des sujets qui ne se réduisent pas à des corps malades, mais constitués par des relations affectives et sociales indispensables. » On croit rêver, en fait, d'entendre des soignants dire des choses pareilles, Valérie Revol.
Oui, c'est tout à fait ça. Mais les soignants en sont convaincus, puisqu'ils nous intègrent et qu'ils sont vraiment désireux et demandeurs qu'on puisse revenir quand ce n'est pas toujours le cas. Mais maintenant, ils ont su convaincre leur direction de la nécessité, effectivement, d'ouvrir le soin, plus que le soin, l'accompagnement des personnes à la société civile. La personne, c'est bien dit, n'est pas qu'un organe malade, elle est plus que ça. Et de la réduire uniquement à sa pathologie ou aux difficultés qu'elle a, en plus dans ce contexte où tout fait pour isoler la personne, c'est juste insupportable. Et je pense en particulier aux personnes âgées, parfois qui ont perdu des facultés cognitives et qui n'étaient pas en capacité de comprendre ce qui se passait dans l'isolement qu'on leur a imposé. C'était insupportable.
Est-ce que vous avez des exemples à ASP Toulouse donc, où vous êtes intervenu pour accompagner des gens qui étaient en fin de vie et ces personnes vous ont partagé la difficulté, le traumatisme que c'était pour elles en fait, de ne pas être accompagnées par leurs proches ou d'être empêchées?
Pour la famille et pour les proches, c'est toujours une difficulté d'accompagner la personne parce qu'on se pose toujours des tas de questions de savoir si on le fait le mieux possible. Mais je crois qu'effectivement, ces circonstances ont vraiment accentué une forme de culpabilité pour les familles. Et donc, elles n'avaient qu'une envie, c'est de savoir qu'elles pouvaient être entourées, mieux accompagnées par la société. Parce que nous, bénévoles, nous ne sommes que des représentants de la société, finalement. C'est de montrer qu'on se préoccupe des personnes aux côtés des soignants. Qu'on les considère encore comme faisant partie de la société civile, tout simplement. Et pour une personne malade, alitée dans son lit, qui ne peut rien faire d'autre, d'être considérée ainsi, ça change complètement sa vision de la vie, j'ai envie de dire.
J'ai ressorti un autre article, cette fois c'était dans le journal La Montagne, mais on aurait pu le trouver ailleurs. C'est Marie de Henzel et son livre « L'adieu interdit » qu'elle a publié donc, aux éditions Plomb, après le premier confinement. Qui a des mots durs, hein. Je relisais l'interview, c'est à se demander si l'un d'entre eux, elle parle des membres du gouvernement, et elle élargit un peu, avait déjà accompagné un proche en fin de vie. Elle avait aussi cette phrase, « Toutes les avancées durement acquises ont été balayées brutalement. » Et puis elle rajoute, « Depuis 1987, j'avais commencé à travailler en soins palliatifs. » Et puis là, tout s'est effondré. Ça vous a aussi surpris ?
Oui. Alors, il faut reconnaître quand même que très vite, l'État s'est rendu compte et a permis effectivement que les personnes en soins palliatifs puissent continuer à avoir un accompagnement. Alors, qui dit accompagnement, ce n'était pas très précisé, c'est de la famille, des bénévoles formés, comme le sont les bénévoles en soins palliatifs ou d'autres.
Vous voulez dire très vite, c'est-à-dire en fait, les gens ne sont pas morts seuls à l'hôpital, comme on a pu l'entendre dans la presse, sauf peut-être les premières semaines alors.
Sauf peut-être les premières semaines, dans des conditions où les établissements ont pu être certains dépassés, j'imagine.
Là, vous parlez de Toulouse ou
Je parle de Toulouse. Oui. De Toulouse, très majoritairement dans toutes les institutions, oui. Et la difficulté, c'était qu'effectivement, la norme était d'une personne accompagnante par malade. Donc, parfois, il se posait la question de savoir quel enfant il fallait privilégier, si c'était le cas. Donc, les équipes ont montré une énorme créativité, souplesse aussi, pour pouvoir accompagner au mieux la personne. Parce qu'évidemment, qu'elle décède du Covid alors qu'elle est en toute fin de vie, ça n'a plus de sens.
Donc, ce que vous laissez entendre, c'est que c'est moins dramatique que ce qu'on peut lire dans ces tribunes. C'est-à-dire, personne ne serait mort. Enfin, personne, vous n'avez pas fait le Tour de France, hein, mais évidemment. Mais c'était plus nuancé que ce qu'on pouvait lire. Où on imaginait que beaucoup de gens, à l'occasion du premier confinement, voire après, étaient soit privés en fait, d'accompagner leurs proches au moment de la mort, soit privés de visites.
Je pense que dans les établissements pour les personnes âgées, ça a été plus difficile. Ou dans les secteurs qui regroupaient les personnes âgées, c'était sans doute plus difficile. Où là, effectivement, elles n'étaient pas considérées comme toutes en fin de vie. Et par contre, elles étaient quand même isolées. Donc là, on a pu assister à des syndromes de glissement où les personnes ne comprenaient pas le sens de la vie qui leur restait. Et là, pour lesquelles, c'était difficile. Mais j'ai envie de dire que le lien que nous avons association de bénévoles avec les institutions dans lesquelles nous intervenons a pu permettre, par une forme de militance, d'alerter, de dire voilà, nous, on ne veut pas abandonner ces personnes, on veut continuer à être là, on veut pouvoir, on veut que ces personnes puissent continuer à vivre tout simplement dans la société, a permis, je crois, d'ouvrir un peu plus facilement les portes.
Voilà, les bonnes fées sont bien utiles, y compris en temps de guerre, comme on dit. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver et puis on va se promener à travers vos associations aussi dans l'hôpital sous un autre jour et on ne s'en plaindra pas.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les bonnes fées de l'hôpital, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi, avec autour du plateau Michel Aimeran pour les Blues Roses de Toulouse, qui en est sa présidente, Gilles Padier, clown, coach et directeur artistique de la compagnie du bout du nez, Hélène Gazot, membre du conseil d'administration de l'association Rêve Toulouse, et Valérie Revol, présidente de l'ASP Toulouse, ASP pour accompagnement en soins palliatifs. Alors, vous êtes des bonnes fées. Les bonnes fées, je ne sais pas si elles sont drôles. En tout cas, on va commencer avec vous, avec la compagnie du bout du nez, en écoutant un extrait. C'est un reportage teasing qui présente un peu ce que vous faites. La compagnie du bout du nez, on en écoute un morceau et après, on va vous donner la parole.
On y va, c'est parti. appeler l'urgence.
C'est en les voyant travailler que la surprise se fait. Ça va ?
Et ben voilà.
J'ai vu à chaque fois beaucoup de délicatesse, beaucoup d'élégance, beaucoup d'humanité, un vrai travail de professionnel là-dessus.
Dans leur technique de clown, ils étaient surtout dans le fait de solliciter la personne et de lui demander de l'aider, de faire avec elle.
Comment on va faire ?
Ça aussi, c'est un élément important pour les soignants, d'inverser un petit peu les choses et de solliciter l'aide de la personne Alzheimer pour qu'elle aide le soignant à l'aider.
Ça, c'est bon, ça.
Ouais !
Il manque pas quelque chose, là ?
On intervient un jour dans une chambre. La personne a les yeux fermés.
Ah. Elle est peut-être en train de dormir.
Mais on ose. Et donc on s'approche. Et
puis un peu de jalousie aussi, parce que parfois on aimerait bien faire le clown aussi, mais ils ont tous les droits, eux. En fait, ces droits leur permettent de communiquer plus facilement, c'est sûr.
Si je fais pas bien, faut me dire.
Voilà pour la compagnie du bout du nez. Alors, je suis bien content de commencer par les clowns, parce que c'est vrai que de vue de loin, l'hôpital, surtout en une pareille circonstance, on a l'impression que c'est d'abord un lieu dur où on souffre, et disparaît un peu ce qui se joue, peut-être la fragilité, justement, la manière dont on la vit, on l'apprivoise. Comment vous présenteriez la compagnie du bout du nez, Gilles Padier, et puis plus largement un peu les, on va dire, les clowns dans les hôpitaux que vous représentez ce matin ?
Alors pour le dire en quelques mots, parce que effectivement je pourrais en parler pendant des heures, la compagnie du bout du nez, on se revendique comme des clowns hospitaliers, donc en ce sens-là, c'est un métier qu'on défend. Derrière le mot clown, effectivement, chacun y met des représentations selon effectivement comment il a une relation ou pas avec des clowns. Donc on l'imagine souvent dans le cirque, on imagine souvent effectivement que ce sont des clowns qui sont plutôt de l'ordre du spectacle. Voilà, nous on est dans la dimension relationnelle. Donc ça veut dire qu'on est un peu comme le Père Noël, quand les enfants croisent le Père Noël dans la période de Noël, on fait immersion dans la réalité, et on fait immersion dans une réalité qui est effectivement, on n'imagine pas que les clowns puissent se balader dans un hôpital. Donc ça veut dire qu'on vient surprendre, et de cette surprise-là se tisse une relation singulière, et toute la pratique artistique, elle se fait à base d'improvisation, et l'objectif étant de mettre effectivement et de valoriser ce qui va se tisser avec la personne et de rendre un moment d'une rencontre qu'on pourrait qualifier de quotidienne un moment extraordinaire.
Alors justement, à vous entendre, en fait, c'est pas seulement, vous n'êtes pas seulement là pour détendre l'atmosphère, mais et on entend ça un petit peu dans le court extrait qu'on a entendu, c'est-à-dire en fait vous aider en fait aux soins, c'est ce qu'on comprend. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est ça, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce métier, entre guillemets, ça fait maintenant une trentaine d'années, la première association en France, c'était le Rire Médecin, il y a à peu près 30 ans maintenant. Nous, ça fait 23 ans qu'on existe. On se considère comme des partenaires de soins. Donc ça veut dire effectivement que les équipes avec lesquelles on travaille, les clowns sont complètement intégrés au projet de soins. Donc par exemple, pour prendre des exemples concrets, quand on se retrouve effectivement avec une personne qui vit l'hospitalisation ou l'entrée dans un établissement de façon difficile, eh bien on va contribuer effectivement à faire en sorte que l'acceptation d'être dans un nouveau lieu, quand on rentre en EHPAD par exemple, où on devient une personne dépendante, on n'est pas Alzheimer avec une perte de conscience de ce qui se vit du jour au lendemain. Et donc toutes ces étapes-là, elles sont pas évidentes. Et donc nous contribuons effectivement à participer au projet de soins, donc au projet d'accompagnement. Et à ce titre-là, le regard que portent les soignants sur notre travail aujourd'hui est vraiment un travail de complémentarité.
Alors, il faut donc être clown professionnel pour faire partie de la compagnie du bout du nez et intervenir dans les établissements hospitaliers ou dans les EHPAD, c'est ça ?
C'est ça. Alors c'est peut-être la différence entre les autres associations qui sont présentes là. Nous, on se revendique comme des professionnels. Quand on se revendique, c'est un métier en soi. Donc il y a des formations et on a fait choix effectivement de faire ce métier-là. Donc on est rémunéré, on est salarié, on est tous des intermittents. Dans la compagnie, à l'heure actuelle, nous sommes une quinzaine de clowns. Et ce professionnalisme-là, on le revendique parce que la pratique du clown est une pratique, un art un peu complexe, hein, difficile, notamment pour travailler auprès de publics en situation de vulnérabilité, ça nécessite effectivement un cadre. Et en tout cas, nous, on défend cette éthique-là. On a rejoint une fédération qui s'appelle la Fédération française des associations de clowns hospitaliers. Aujourd'hui, la fédération a 10 ans et on a à peu près une vingtaine d'associations au niveau national qui ont rejoint ce réseau.
Ça fait combien de bonnes fées clowns un peu partout en France ?
Oula, alors la plus grosse association, c'est le Rire Médecin. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 105 clowns. En moyenne, on va dire qu'il y a une dizaine, quinzaine de comédiens par association sur toute la France. En moyenne, hein, parce qu'il y a des associations plus ou moins grosses, quoi.
On fera la multiplication. On va y revenir. On va y revenir. Ça, c'est pour la compagnie du bout du nez. Si on fait un petit tour d'horizon, Michel Aimeran, les blouses roses. Blues, ça on comprend. Rose, pourquoi ? Simplement pour égayer, comme
pour
votre
égayer.
Masque rose de ce matin.
Voilà, pour égayer, pour aussi nous différencier par rapport au personnel hospitalier qui est en blanc. Dernièrement, on est intervenu en EHPAD et en principe, on devait mettre des surblouses, vu les conditions sanitaires. Et nous, on a dit, on a nos blouses. Et l'animatrice nous a dit, heureusement que vous avez votre blouse. Parce que de loin, on nous voit. Rose fuchsia, ça se voit bien. On passe pas inaperçu.
Alors, racontez-nous les blouses roses. En fait, ce que j'en comprends, c'est que les blouses roses, c'est en fait une association, c'est une forme de bénévolat, c'est ça, ouvert à tout à chacun,
ouais.
Auprès de différents publics, et puis on vient avec ce qu'on est, et puis on peut, j'ai noté, pour les tout-petits, materner, chanter, pour les adolescents, échanger, accompagner. Expliquez-nous un peu l'objet de l'association.
L'association existe depuis 1944. Donc, et à Toulouse, on est là depuis plus de 50 ans. Alors, on intervient aussi bien à l'hôpital hospitalier, dans les centres de convalescence, dans les centres d'handicapés et dans les EHPAD. On intervient actuellement à l'hôpital d'Arrée, à Rangueil, à Purpan et
ailleurs dans la région, parce
qu'on
est diffusé dans la
voilà.
région.
Et on est, au niveau national, on est plus de 5200 bénévoles. On est quasiment toutes et toutes bénévoles. Il y a quelques salariés au siège national.
Alors, il suffit d'avoir une blouse rose pour venir ?
Non. il y a une réunion d'information qui se fait en premier, où les gens qui nous ont écrit sont informés, on leur présente l'association. Suite à ça, il y a un recrutement qui se fait d'abord par téléphone et ensuite en présentiel. Et à l'issue de ce recrutement, la personne elle a un parcours de découvert et d'essai de 8 semaines. Et là, elle va faire différentes sites pour justement aussi bien des enfants que des personnes âgées. Elle est attribuée sur un site, elle s'engage pour un an.
Alors dites-nous surtout ce que font les bénévoles. Au final, qu'est-ce que vous faites ? Vous intervenez auprès de tout type de public ?
On intervient auprès des personnes âgées et des enfants. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? À l'hôpital des enfants, par exemple, on va dans les chambres.
Je suis bien un homme, je vous demande ce que vous faites, alors que c'est peut-être pas le plus important, mais
si, allez-y,
répondez quand même à ma question.
on intervient dans les chambres, on leur fait des lectures, on fait des jeux. Aux urgences, on les fait patienter, parce qu'aux urgences, parfois, les attentes sont très longues. Là aussi, on fait des jeux, des coloriages, tout ça. Dans les maisons de retraite, on lit, on chante, ils nous racontent leur vie. Ils sont intarissables, parfois. Pour nous raconter leur vie. Dernièrement, on fait des concerts actuellement hein, sur 12 EHPAD.
Donc, c'est ce que vous arrivez à faire, on me disait
voilà,
avant l'émission.
Voilà.
Aujourd'hui, vous n'intervenez pas dans le milieu hospitalier, comme vous disiez au début de l'émission, mais dans quelques EHPAD pour en donner des concerts.
On a offert des concerts dans les EHPAD. Et dernièrement, il y a des dames qui nous ont dit, parce qu'on les fait danser, on les chante, et qui me dit, eh ben, moi, ça fait 25 ans que je n'ai pas dansé. Elle n'avait pas perdu le rein, c'est comme le vélo, en fin de compte, ça ne s'oublie pas. Il y avait un monsieur qui était là et était complètement... on a l'impression qu'il dormait. Puis au bout d'un moment, on a vu ses mains qui bougeaient et battaient la mesure. Et ça, c'était formidable. En fin de compte, nos interventions, c'est que du bonheur. Parce qu'on répond vraiment à la mission qu'on s'est donnée en étant blouse rose, quoi, apporter du bonheur et de la joie aux personnes.
Voilà, il suffit d'être majeur, ai-je vu, hein, c'est ça ?
Oui.
Et c'est de 18 à 75 ans. Alors, vous faites peut-être des digressions, non ? Si on a 77, ça va ?
Non.
On est bon pied, bon oeil ?
Si on est là dans l'association et qu'on a 77 ans, bon, on y reste.
Ah, d'accord.
Mais on ne recrute pas à partir de 72 ans.
Bon, donc voilà, j'allais dire, Monseigneur pourra se présenter, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Bref, ça, c'est un peu les circuits, les dessous des cartes, ça ne concerne pas les auditeurs, pardon.
On avait une petite jeune fille qui était venue, elle avait 17 ans, elle voulait s'inscrire au Blues Rose. Et puis on lui a dit, ben non, il faut attendre 18 ans. Et le jour de ses 18 ans, elle est venue frapper à notre porte en disant, aujourd'hui j'ai 18 ans, je vais être bénévole.
Je me tourne vers vous, Hélène Gazot. Si on continue un petit peu le tour d'horizon, vous, c'est Rêve. C'est une association aussi qui mérite évidemment d'être découverte. Vous l'avez dit au début de l'émission, vous proposez à des enfants, et si j'ai bien compris, des enfants gravement malades, de réaliser un rêve. Expliquez-nous comment est née cette association et puis quel est son objet.
Alors, cette association est née en 1994, donc il y a 27 ans. En fait, c'est 5 personnes qui ont dit « il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour les enfants malades ». Pour qu'au moins pendant une journée, ils puissent oublier leur maladie, se sentir le maximum comme un autre enfant, être le héros de leur histoire. Et l'association est née comme ça. Alors actuellement, elle a 30 délégations. Le siège social est à Villefranche-sur-Saône, 800 bénévoles et 7 salariés.
Alors 800 bénévoles, c'est quoi? C'est 800 bénévoles qui travaillent à essayer de réaliser les rêves des enfants? Parce que voilà. c'est du boulot derrière, c'est ça?
Alors il y a deux missions, on va dire, pour un bénévole. Soit d'accompagner les rêves des enfants, parce que tous les rêves, quand une famille demande qu'un rêve soit réalisé pour son enfant, le dossier qu'elle va faire est centralisé à Villefranche-sur-Saône. Et c'est là où il est étudié, parce qu'il y a les cadres de santé nécessaires, il y a une grande confidentialité. Et suivant le rêve de l'enfant, il est accordé dans telle ou telle région. Par exemple, pour illustrer, moi j'ai accompagné le rêve d'un enfant qui venait de Nice.
Moi j'ai vu un enfant qui avait vu le Père Noël avant les vacances. Alors j'étais fasciné, je me suis dit, ils ont réussi à trouver le Père Noël.
On a trouvé le Père Noël pour lui, tout à fait. Voilà. Et donc, cette association, donc les bénévoles, ont soit la mission d'accompagner un enfant quand il va réaliser son rêve, puisqu'il va venir dans la région où il peut réaliser son rêve. Et la deuxième mission des bénévoles, qui n'est pas la moindre, c'est de trouver les fonds et d'organiser des manifestations, d'aller à la recherche de sponsors, parce que la réalisation d'un rêve ne coûte rien pour l'enfant et un membre au moins de sa famille. Tout ce qui est transport, hébergement, droit d'entrée, par exemple, est pris en charge par l'association.
Alors, prenez des exemples. Vous en avez, je crois, vous-même, auquel vous avez participé, c'est ça?
Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance...
Vous n'avez pas vu le Père Noël, vous, par contre?
Et non, bon. Et pas vu le Père Noël. Mais j'ai eu la chance d'aller à la Cité de l'Espace avec un petit garçon de 8 ans, oui. Voilà, à Toulouse, parce que son rêve, c'était, s'il peut, d'être astronaute. Et donc, il voulait rencontrer un astronaute.
Qu'est-ce qu'il avait comme maladie, ce petit garçon?
Je ne le sais pas. On ne sait jamais.
D'accord. On sait qu'il est gravement malade.
On sait qu'il est gravement malade. Voilà. Il n'y a que le siège à Villefranche-sur-Saône qui connaît la pathologie et qui peut éventuellement donner une indication. Mais comme il y a souvent un membre de sa famille, parce que c'est des enfants jeunes, entre 3 et 18 ans. Et moi, le petit garçon que j'ai accompagné, il avait juste 8 ans. Donc, sa maman était là. Donc, elle prenait en charge, on va dire, les soins quand il y en avait. Un autre rêve où j'ai accompagné, je savais juste qu'il fallait faire attention que cette petite jeune fille ne reste pas trop longtemps debout. Mais je ne savais pas sa pathologie.
Et là, en l'occurrence, quel était le rêve?
Alors là, ça arrive souvent, c'était le rêve d'aller voir un chanteur, et je suis allée voir M. Pokora grâce à cette jeune fille, et c'était magnifique de voir, comme pour le petit garçon, les étoiles dans les yeux qu'ils avaient. Je peux vous dire que, voilà, c'est plus la petite jeune fille que j'ai regardée que, que le reste de la salle.
Alors, on parlera du rire, du rêve, et puis quelques conseils peut-être aussi pour prendre soin des uns des autres au regard de vos expériences à chacun, parce que tout le monde est un peu, en ces temps, on va dire, de difficile, en situation peut-être d'accompagnement, même s'il n'intervient pas en milieu hospitalier ou dans les EHPAD, et ça peut nous donner des idées avant qu'on fasse une deuxième pause et après que vous nous donniez un peu vos conseils de bonne fée. Valérie Revol, si on finit le tour de table, ASP Toulouse, accompagnement en soins palliatifs, ça paraît plus évident à comprendre, mais malgré tout, dites-nous.
Qu'est-ce qu'un accompagnant en soins palliatifs? Ce sont des hommes, des femmes, de la société civile qui ont été confrontés, j'ai envie de dire, à la fin de vie et qui, là, ont réalisé qu'elles souhaitaient s'engager pour pouvoir accompagner des personnes dans le cadre de la maladie grave.
C'est souvent donc des gens qui ont été d'abord concernés au premier chef.
Oui.
D'accord.
Les bénévoles sont sélectionnés. Ça paraît une évidence parce qu'on ne peut pas... être bénévole n'importe comment, comme ça, pour accompagner des personnes en situation de grande fragilité. D'abord, pour protéger la personne qu'on va accompagner, pour protéger aussi le bénévole, parce qu'il peut y avoir des deuils auxquels ça ferait écho, qui seraient peut-être un peu difficiles pour lui-même.
Parce que soins palliatifs, ça veut dire en général que la personne décède derrière.
Oui, ça veut dire que la personne est atteinte d'une maladie potentiellement létale. Et puis aussi pour s'intégrer parmi les équipes de soins, pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, ne pas être tenté de donner à boire à une personne qui nous le demande alors que ce n'est peut-être pas possible. Voilà. Donc les bénévoles sont sélectionnés, ils sont formés, c'est une obligation aussi légale, c'est une loi, la loi du 9 juin 1999, qui précise tout ce cadre réglementaire pour les bénévoles en soins palliatifs.
Parce que donc c'est une forme de bénévolat, on va dire, différente des autres, vous diriez. Il ne suffit pas d'être présent, de tenir la personne par la main, c'est...
Oui, c'est un bénévolat qui est finalement relativement astreignant, puisqu'il demande effectivement cette sélection, cette formation et ce suivi avec des groupes de parole obligatoires une fois par mois. Ce qui me montre qu'effectivement, nos bénévoles sont des bénévoles extrêmement engagés. C'est une fois qu'ils ont commencé à accompagner, même auparavant évidemment, ils se rendent compte effectivement de l'importance pour la personne malade d'avoir la possibilité de parler, d'évoquer ce qu'il vit ou simplement d'avoir une ouverture sur le monde extérieur. Parce qu'aujourd'hui, la famille est parfois éclatée. Quelle est la personne la plus proche quand le fils habite aux États-Unis, la fille à l'autre bout de la France, les petits-enfants ne sont pas toujours disponibles, encore moins. Donc c'est compliqué. D'avoir un bénévole qui montre, qui vient prendre ce temps gratuitement et montrer à la personne que même si elle est, sa vie est compliquée, est dégradée par la maladie, elle vaut encore le coup, elle est encore importante. Et donc, ça nécessite aussi pour ces bénévoles de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment.
Vous manquez de bénévoles ou pas, en général, ces associations, la vôtre comme les associations qui accompagnent les personnes en soins palliatifs ?
Oui, c'est important. Alors effectivement,
C'est-à-dire la réponse est oui, c'est important.
Oui, c'est important de recruter des bénévoles, d'accord. D'avoir de plus en plus de bénévoles. Parce que la pyramide des âges est inversée, comme on le sait bien, effectivement, les personnes en EHPAD, les personnes en soins palliatifs, on les retrouve partout.
Allez, elles sont formidables, nos bonnes fées. On va faire une deuxième pause et puis après, on va essayer de finir cette émission en riant un peu et en rêvant ensemble et autres conseils de bonnes fées. Thank you.
Emmanuel Pella.
Les bonnes fées de l'hôpital, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin. Et pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau, Michel Emran pour les blues roses de Toulouse, Gilles Padier pour la compagnie du bout du nez, Hélène Gazot pour l'association Rêve et Valérie Revol pour l'ASP Toulouse, accompagnement en soins palliatifs. Alors, chose promise, chose due pour tous ceux qui sont concernés aussi, on va dire, par des situations d'accompagnement, situations difficiles, un proche en EHPAD ou des personnes qui sont par trop confinées chez elles en ces temps compliqués. Je vais vous demander vos conseils de bonne fée. On va commencer par notre cher clown et puis écouter un petit extrait histoire de se détendre.
Je dois passer demain à la télévision, laissez-moi sortir. Je passe à la télévision, vous m'entendez, à la télévision.
J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus.
Ah ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin ?
Il y a d'abord ce qui ne changera pas. Comme au printemps, vous ne pourrez pas sortir de chez vous pour travailler.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais.
Restez au maximum chez vous, respectez les règles.
En sortant ici, vous pouvez très bien vous faire écraser.
Oui, vous aussi.
Moi, ça m'étonnerait de...
Vous ne pourrez pas vous rendre à un rendez-vous médical
pour... Voilà, j'espère qu'on ne sera pas condamné en justice pour ça. Vous avez reconnu, c'était un montage, évidemment, entre les propos du président de la République et de Louis de Funès. Alors, Gilles Padier, rire, pas toujours facile en pareille circonstance. Que nous dit le clown ?
Peut-être dans les messages, qu'on essaie de s'appliquer déjà à nous-mêmes, c'est que effectivement l'humour est vraiment importante. Donc, c'est peut-être ça les témoignages là que vous venez de passer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui on nous assène de situations qui génèrent du stress et que on peut se laisser à un moment donné justement submerger par ce stress. Donc, l'humour, c'est la capacité effectivement à trouver un peu de décalage. Et c'est ça, je pense, le paradoxe qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, effectivement, cette pandémie, c'est vraiment un fléau. Que oui, effectivement, il faut être vigilant et être attentif à respecter les gestes barrières et les propositions qui nous sont faites par notre gouvernement. Et en même temps, comment effectivement préserver le lien social, parce que effectivement quand on a un parent à l'hôpital, quand on est soignant et qu'on est à gérer tout ce stress là, eh bien à un moment donné l'humour c'est vraiment important.
Est-ce que vous-même parfois vous êtes pas un peu gêné, les clowns, quand vous intervenez à l'hôpital, vous dites dans le fond la première chose dont les personnes ont besoin, c'est pas forcément de rire. On peut peut-être ne plus faire de blagues auprès de nos proches parce que on se dit qu'il faut être grave et que c'est pas de circonstance.
C'est tout le paradoxe en fait. La gravité n'empêche pas effectivement. C'est pour ça que je te parle d'humour et pas forcément de chercher à faire la blague qui va faire rire. Ce qui va à un moment donné faire que ce qui nous met en tension par rapport à ce climat, à ce discours, à ces situations qui génèrent ce stress, c'est effectivement de trouver à un moment donné une façon de relâcher ces choses-là. Et notre travail, notre présence dans les établissements sert à ça. Voilà, donc à partir de là, quand on comprend ça, c'est pas on cherche pas à faire des rires, à faire rire les gens forcément. Ça peut provoquer des situations de rire, mais c'est en tout cas d'enlever ce stress-là, de mettre du relatif dans effectivement ce qui fait difficulté. Et en tout cas, il y a un réel besoin à l'heure actuelle de retrouver de la vie, de remettre de l'expression. Parce que c'est ça l'humour aussi. Hein, c'est qu'à un moment donné, on s'asphyxie, on s'empêche de respirer parce qu'on est tellement stressé qu'on prend toutes ces tensions, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on retourne vers la vie. Et encore une fois, trouvons et soyons créatifs par rapport à ça, la façon de le penser, de le parler, de l'exprimer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on cherche à faire parce qu'on pense que c'est par ces voies-là qu'on va réinterroger effectivement nos modèles, nos façons de fonctionner, pour remettre de l'humain et toutes les solutions palliatives qu'on a pu trouver pendant cette période de confinement en termes de créativité, les visios, etc. C'est bien. Ça permet pendant une période effectivement de continuer à maintenir du lien. Mais la réalité, c'est que le lien physique, l'humain, essentiel, et en tout cas c'est ce qu'on cherche à porter comme message.
Alors il faut rire, donc ça c'est fait, on va s'y coller, faites-nous confiance. Est-ce qu'il faut rêver aussi, Hélène Gazot? J'imagine que l'association rêve, quand on y participe comme ça depuis longtemps, on se dit que les rêves ont quelque importance. J'ai retrouvé, pour vous lancer, vous voyez, c'était le discours du pape François à l'occasion d'un pèlerinage des pauvres, pèlerinage Fratello, c'était à Rome en 2016, 5000 personnes dont certaines étaient à la rue, avait été reçu par le pape François, et il avait posé son discours à côté de lui, et il avait commencé à leur parler à cœur ouvert. La première chose qu'il leur a dit à ces personnes, qui, je vous dis, parfois étaient à la rue, en situation de prostitution, « Ne vous arrêtez pas de rêver. Le rêve d'un pauvre, d'un de ceux qui n'ont pas de toit, que sera-t-il ? » leur disant, quand on ne sait plus rêver quelque part, ben on se déshumanise. Qu'est-ce que vous direz sur ce sujet, Hélène ?
Oui, je crois qu'effectivement, ce que dit le pape François est tout à fait juste. Il faut savoir rêver. Et les enfants en particulier qui sont malades et gravement malades en ont besoin déjà quand ils pensent à leur rêve qu'ils vont demander. Ils sont déjà en condition, et puis quand ils attendent le rêve et quand ils le réalisent, et après quand ils peuvent y repenser encore. Et on a eu des témoignages de parents et de mamans disant combien leur enfant, après le rêve qu'ils avaient réalisé, voyez les choses sous un autre angle.
C'est-à-dire qu'ils sont nourris du rêve avant et après, c'est ça ?
Alors,
Aide à affronter la maladie ?
Exactement, c'est tout à fait ça. Ils se projettent complètement dans ce rêve. Alors, c'est très varié, les rêves qu'ils demandent. Juste pour l'anecdote, parce que ça nous avait beaucoup ému, il y a un petit garçon qui a demandé à aller passer une journée à l'école, parce qu'il ne savait pas ce que c'était que l'école. D'autres iront faire des sauts en parachute, piloter un hélicoptère, enfin, bien sûr, avec le pilote et tout ça. Mais pour dire que, voilà, ces rêves sont vraiment quelque chose qui correspond à ce que souhaite l'enfant, et il peut s'y raccrocher. Et on a vu même des guérisons, Dieu merci, suite au rêve. Alors, ce n'est pas le rêve qui a guéri, mais qui a aidé certainement à la guérison.
C'est ce que vous dites, ou c'est ce que vous disent parfois le personnel hospitalier aussi ?
Et c'est ce qu'on constate, nous, parce qu'on garde des liens avec les enfants qu'on a accompagnés en rêve. C'est ce que nous dit le personnel hospitalier aussi, bien sûr que oui, puisqu'on a aussi le contact avec plus de 60 hôpitaux, centres hospitaliers. Et c'est ce que nous disent les parents. On a toujours à cœur au maximum, parce qu'on a aussi des rassemblements des enfants qu'on appelle les rêveurs. On appelle les enfants chez nous les rêveurs, pour vous montrer l'importance du rêve.
Je finirai toujours par cette citation du pape François, cet extrait de discours. Seul celui qui sent qu'il lui manque quelque chose regarde vers le haut et rêve. Celui qui a tout ne peut pas rêver. Et puis un petit peu plus loin, il disait à toutes ces personnes en situation de vulnérabilité, de pauvreté, enseignez-nous à nous tous qui avons un toit, de la nourriture et des médicaments, enseignez-nous à ne pas être satisfaits avec vos rêves, enseignez-nous à rêver. Valérie Revol et Michel Aimeran, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui accompagnent des proches ou qui eux-mêmes étouffent un peu dans leur quotidien? Je pense évidemment à tous ceux qui ont des parents en EHPAD, ceux qui essayent d'être attentifs à leurs anciens, ceux qui se confinent un peu trop chez eux parce qu'ils ont peur du virus, à raison ou pas. Valérie Revol, quid de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a des clés, des bonnes fées, des spécialistes d'accompagnement que vous êtes? Et quelles sont-elles?
Des spécialistes, certainement pas, mais le lien humain, je crois que c'est vraiment la priorité. Je crois qu'effectivement, on ne peut être seul dans son ressenti, dans sa difficulté. Et en même temps, c'est le paradoxe, on a besoin des autres. On est en lien avec les autres, on est en interactivité avec les autres. Et de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de pouvoir rêver, de pouvoir pleurer, de pouvoir rire. Être dans la banalité du quotidien, de pouvoir regarder une émission de télévision avec quelqu'un, que ce soit le Tour de France ou ailleurs, ou autre chose. Oui, c'est important. Oui, c'est riche. Et je crois que c'est la clé, effectivement, de tout accompagnement.
Et si possible, pas en distanciel ?
Et si possible, pas en distanciel. C'est beaucoup plus difficile en distanciel.
Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, il faut oser quoi ? Prendre des risques ? Est-ce qu'il faut avoir un peu le courage aussi de... Qu'est-ce que... C'est difficile pour vous ? Vous ne voulez pas mettre les gens en danger, mais enfin... C'est souvent une question qui se pose aujourd'hui.
Oui, alors c'est une question qui se pose, mais l'accompagnement peut se faire tout à fait avec un masque. On pourrait croire effectivement que les expressions de visage sont beaucoup plus difficiles à voir, et je pense en particulier aux personnes qui ont perdu leur faculté cognitive. Eh bien, ça se passe très bien, relativement bien, on va dire. Donc finalement, oui, la présence humaine est irremplaçable, avec masque ou sans masque, avec les gestes barrières, bien évidemment, c'est indispensable, c'est le moindre du respect que l'on puisse avoir, mais l'accompagnement tout court, oui.
Michel Aimeran, quels seraient vos conseils de bonne fée pour finir ?
Oh, moi, je pense qu'un peu comme Véronique, je pense que le lien est vraiment primordial. Et autant qu'on peut, il faut rencontrer les gens, les enfants. Nous, notre rôle, c'est d'animer au sein de l'hôpital et des EHPAD. Et bon, actuellement, on peut faire pratiquement que du visio, mais si on peut aller, en visio, on peut, parce qu'on est intervenu en pneumo auprès des enfants. Et l'enfant avec qui vous faites une bataille navale, ou alors vous faites des cartes, cet enfant, ben, quand elle a fini son animation avec la blouse rose, elle est toute contente, elle est toute heureuse, parce que pendant une heure, on lui a fait oublier pourquoi elle était là. On lui a fait penser à autre chose. Et même les mamans qui sont présentes sont ravies parce qu'ils voient leurs enfants sourire. Et je pense que le lien, c'est ça, c'est redonner du sourire aux enfants.
Eh ben, merci.
Aux personnes âgées.
Eh ben, merci beaucoup et bravo à toutes les fées que vous êtes. On va donner donc quelques adresses à la fin. Lesblouseroses.fr pour les blouses roses, compagnie-dubout-du-nez.fr pour nos clowns du jour, clowns professionnels, j'ai bien entendu, rêve avec un S.fr pour l'association que vous représentez, l'ENGAZO, et pour l'association l'ASP Toulouse, ASP-toulouse.fr. Et puis j'ai vu qu'il y avait un site Tous Bénévoles, site porté par le gouvernement, où on retrouve aussi vos différentes associations, ça peut faire une porte d'entrée, sauf peut-être l'ASP Toulouse et Compagnie du bout du nez, que je n'ai pas forcément trouvé. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.